France Musique. Musicopolis. Eugène Scribe, un dramaturge à l'opéra, chapitre 2, bâtir le grand opéra. En 1828, Eugène Scribe a 37 ans. Il écrit depuis son plus jeune âge, et voilà près de 20 ans qu'il donne chaque année au théâtre de la capitale, et d'ailleurs, des pièces de toutes sortes. Vaudeville, pour la grande majorité, mais aussi comédie, mélodrame, et pour ce qui nous intéresse avant tout, livret d'opéra et d'opéra comique. L'année 1828 a été celle de deux grands succès musicaux pour Scribe, avec La Muette de Portici, musique d'Aubert, et Le Contori, musique de Rossini. Les années suivantes voient d'autres succès, en particulier pour Fra Diavolo, avec musique d'Aubert à nouveau. Alors que la société et le régime politique changent, alors qu'on va passer de la Restauration à la Monarchie de Juillet, Scribe est en train de mettre au point ce qu'on va bientôt appeler le grand opéra, un nouveau genre qui peut voir le jour grâce à la conjonction de multiples éléments et à la collaboration de plusieurs personnalités, dont bien sûr lui-même notre Scribe.
Encore à de gagner, glorieuse conquête, dont l'envers doit se réjouir. Je ris de ces mots et du sort qu'il s'apprête lorsque dans un instant le mien va s'accomplir. Roi des anges déchus, mon souverain, je tremble. Il est là qui m'attend.
Parmi les créateurs du grand opéra à la française, qui voit le jour autour de 1830, le docteur Véron n'est sans doute pas le moins important. C'est lui qui prend la direction de l'Académie royale de musique à la fin mars 1831. Comme Scribe, il a sans doute lu les critiques à la première du Contori de Rossini. On reprochait à cet ouvrage de favoriser la musique aux dépens de la scène, alors qu'il fallait au public de l'opéra du luxe de décoration, du brillant et toujours de la danse pour que son œil se réjouisse de cent plaisirs divers. Avec Robert le Diable, créé le 21 novembre 1831 à l'Opéra de Paris, le nouveau genre du grand opéra est consacré. Si on examine un peu les péripéties et avatars qui ont émaillé sa genèse, on constate qu'il s'agit bien d'un ouvrage taillé sur mesure et cousu main pour son époque. À l'origine, en effet, un livret de Scribe et de Lavigne pour l'opéra comique, avec musique de Meyerbeer. Mais le directeur de l'opéra comique ayant changé, Meyerbeer et Scribe ont tenté leur chance à l'opéra. L'ouvrage étant accepté, il a fallu le transformer. Chaque théâtre a ses propres us et coutumes qu'il faut respecter. À l'Académie de musique, il faut 5 actes et non plus 3. Des récitatifs à la place des dialogues parlés et bonne quantité de divertissements dansés. Le docteur Véron, qui prend la direction de l'opéra en mars 1831, a pour projet de rendre son théâtre tout à la fois brillant et populaire. Il a compris que l'opéra allait devenir le Versailles de la bourgeoisie, victorieuse après la révolution de 1830. Il met tous les atouts de son côté. Pour donner toutes ses chances à Robert le Diable, il fait d'abord refaire aux auteurs, Scribe et Meyerbeer, tout ce qui peut être amélioré. Puis il ouvre un crédit sans limite à Duponchel pour la mise en scène, puisqu'en effet, le nouvel ouvrage met l'accent sur le visuel. Beaucoup d'éléments du livret ne sont pas verbalisés, il faut les voir. Après la première, le journaliste du Temps n'hésitera pas à affirmer que c'est un assez grand événement dans le monde que le progrès subi qui vient de se manifester dans l'art du décorateur. Lorsque Scribe a transformé le livret original d'opéra comique de Robert le Diable pour en faire un grand opéra, il a ajouté surtout des éléments de spectacle. Par exemple, le cinquième acte, qui se déroulait à l'origine dans une modeste chaumière, est à présent situé dans la vaste cathédrale de Palerme, d'un effet puissant. Scribe crée un véritable tableau qui sera rehaussé par la musique, notamment le chœur de moines du début. De la même manière, au troisième acte, il développe la courte scène d'Alice pour en faire un tableau musico-dramatique, non seulement grâce au dialogue, mais surtout à toutes les indications de mise en scène. Surprise par un orage, la jeune Alice s'approche d'une caverne où elle entend des démons crier le nom de son maître, Robert, Robert. Alice, c'est le nom de mon maître, quelque danger le menace peut-être. Elle montre l'ouverture à droite entre les rochers. D'ici, l'on pourrait voir, je crois, dans ce lieu souterrain. Elle fait un pas. Ah, grand Dieu, l'éclair brille, j'ai bien peur. Elle s'avance en tremblant vers l'ouverture à droite, jette les yeux, l'orchestre peint ce qu'elle voit, elle pousse un cri, se sauve vers la gauche, s'attache à la croix de bois, l'embrasse et s'évanouit. Bertram sort de la caverne, pâle et en désordre.
Thank you.
Si dans ces grands opéras, La Muette de Portici ou Robert le Diable, Scribe peut tailler sur mesure pour l'Académie royale de musique ses grands tableaux musico-dramatiques, c'est que depuis plus de 20 ans, dans ses vaudevilles, puis ses comédies, ses drames et ses opéras comiques, il a imaginé et expérimenté toutes sortes de situations. Son théâtre repose non pas sur la psychologie des personnages, mais sur les situations dans lesquelles ils se trouvent. Scribe prépare des plans d'horloger pour arriver à soutenir l'attention de son public. Il sait créer le suspense en retardant les événements grâce à ce qu'il faut de révélations, de coups de théâtre et de dénouements bien à propos. Pour avoir un aperçu de la manière dont Scribe conçoit une grande scène, prenons par exemple la fin de Robert le Diable. D'abord, un trio, durant lequel Robert hésite entre le bien, représenté par Alice, et le mal, personnifié par Bertram. Si à minuit, il n'a pas choisi Bertram, celui-ci sera englouti dans les enfers. Alice fait durer la scène, et bien sûr, minuit sonne. Musique pathétique, Scribe écrit « La terre s'entr'ouvre, Bertram disparaît. Robert, hors de lui, éperdu, tombe évanoui aux pieds d'Alice qui cherche à le rappeler à la vie. À la musique terrible qu'on entend encore gronder dans le lointain, succèdent des chants célestes et une musique religieuse. Les rideaux du fond, qui se sont ouverts, laissent apercevoir l'intérieur de la cathédrale de Palerme remplie de fidèles qui sont en prière. Au milieu du chœur, la princesse est à genoux avec toute sa cour. À côté d'elle, un siège vide destiné à Robert. « Chantez, troupe immortelle, reprenez vos divins concerts, il nous est resté fidèle, que les cieux lui soient ouverts. » Grâce à sa connaissance du théâtre, à tout ce qu'il a expérimenté dans de multiples genres, Eugène Scribe réussit à combler le fossé entre théâtre populaire et opéra. Les critiques d'ailleurs lui reprochent systématiquement de s'adresser au public et de tenir compte de ses goûts et de ses désirs. De même que les intellectuels et les artistes ne lui pardonneront pas d'avoir choisi la classe moyenne pour destinataire de ses pièces et de ses livrets. Comme le dit son biographe Jean-Claude Dion, Scribe a rempli un rôle d'intermédiaire entre la culture des élites et celle des masses qui naît précisément durant ces décennies.
Eh bien, à vos petits bras,
si c'est au champ dans l'air, je t'en remercie.
Avec Gustave III, mis en musique par Aubert pour l'Académie royale de musique en 1833, Scribe franchit un nouveau pas dans le développement du grand opéra. On ne trouve là plus les parfums de pastoral de l'opéra comique, mais une trame historique épicée d'intrigues, d'histoires d'amour, de sang et de tonnerre, avec un suspense qui s'organise depuis le début de l'ouvrage, mais dont les péripéties retardent la résolution. Dès le deuxième acte, la Sibylle a révélé au roi Gustave III qu'il allait mourir. Et peu à peu, tous les éléments se mettent en place dans une mécanique implacable qui fait monter la tension de scène en scène et contre laquelle nous, spectateurs, ne pouvons rien. Pendant qu'il met au point le nouveau genre du grand opéra sur la scène prestigieuse de l'Académie royale de musique, Scribe continue à s'adresser à d'autres couches de la société parisienne avec toutes sortes de spectacles qui obtiennent eux aussi grand succès.
Dans ce modeste et simple asile, nul ne peut commander que moi. Je suis libre, heureuse et tranquille. Je puis courir partout. Je crois sans qu'un mari gronde après moi. Ou si quelque amoureux soupçonneux me faisait les grands yeux, moi je ris.
Eugène Scribe peint les mœurs de son temps et on peut noter qu'il tient compte des aspirations féminines. C'est ce qu'on entend dans cet air de l'opéra comique Le Chalet, musique d'Adolphe Adam, représentée en 1834. En effet, les livrets de Scribe démontrent une véritable attention bienveillante portée aux femmes, ce qu'il démarque de la grande majorité de ce qu'on peut voir alors à l'opéra. Un des multiples sujets qui l'intéresse, comme nous le verrons dans la prochaine émission.
Voilà nos précieux ici-bas. Vive le vin, la nouvelle du combat. Voilà, voilà le refrain des soldats.
Le final du Chalet d'Adolphe Adam, livret d'Eugène Scribe, Jody DeVos, Sébastien Droit, Hugo Rabeck, le chœur et l'orchestre symphonique de l'Opéra de Toulon, dirigé par Guillaume Tournière. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Thibault pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.